Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi pour l'invitation à venir présenter ma recherche ici. Donc, je suis ravi de vous présenter l'ouvrage. Donc, comme cela a été indiqué, en gros, la problématique centrale, c'est la question des transformations de l'engagement ouvrier, et donc là, en l'occurrence, de l'engagement syndical, donc sur le militantisme syndical et ses recompositions. Et avant d'aller sur cette idée centrale, je vais commencer par dire quelques mots sur le contexte de l'enquête et donc sur cette réalité assez peu connue de la condition ouvrière dans les espaces ruraux, puisque ça ne va pas de soi. Donc je vous rappelle donc que je suis chercheur à l'INRA, donc à l'Institut national de la recherche agronomique, où l'on travaille sur l'alimentation, l'environnement, l'agriculture et les territoires, et notamment les territoires ruraux. Et moi, je travaille donc sur le versant ouvrier, sur le volet ouvrier des campagnes françaises. Et souvent, on peut penser voilà, que ça ne va pas de soi d'être spécialiste du monde ouvrier et de travailler en sociologie à l'INRA, alors qu'il y a une très forte logique, puisque les campagnes françaises sont essentiellement des campagnes ouvrières. Donc ça va un peu à l'opposé des représentations dominantes que l'on a sur la société et sur ces territoires. C'est que généralement, lorsqu'on se représente les campagnes, on pense essentiellement aux campagnes touristiques, à des espaces verts, à des espaces sans travailleurs ou sans habitants qui sont dédiés au tourisme. Ou alors, quand on pense aux travailleurs, on pense aux travailleurs du monde agricole. Et donc, on pense aux campagnes agricoles. Or, il faut savoir que les ouvriers sont bien plus nombreux que les agriculteurs dans ces campagnes, et qu'en gros, il y a 5 fois plus d'ouvriers que d'agriculteurs. La singularité des campagnes en France, par rapport aux autres territoires, le périurbain et les zones urbaines, c'est que le groupe ouvrier est le premier groupe. Donc, en gros, on estime qu'il y a environ 5% de la population active des espaces ruraux qui sont formés d'agriculteurs, contre 32% d'ouvriers. Donc 32% d'ouvriers, 5% d'agriculteurs dans ces espaces ruraux. Donc 5 fois plus d'ouvriers. Or, ça ne va pas de soi. Lorsqu'on pense aux espaces ruraux, on ne va pas penser automatiquement au monde ouvrier. Ces ouvriers qui vivent dans les campagnes, une toute petite partie travaille dans le secteur agricole. Donc c'est ce qu'on appelle les ouvriers agricoles, mais c'est vraiment une petite partie. La plupart travaillent en fait dans des secteurs classiques du monde ouvrier. Donc c'est la métallurgie, le nucléaire, l'agroalimentaire, le bois, le bâtiment, la logistique. En fait, on retrouve des figures ouvrières classiques essentiellement dans ces campagnes. Mais il y a une invisibilité. Donc il y a vraiment une invisibilisation de la population centrale de ces campagnes, puisqu'on pense essentiellement aux populations agricoles. Donc 2 mots par rapport à cette invisibilité. Elle est liée au fait à la production de représentations sur les campagnes, des représentations dominantes qui sont essentiellement produites par des élites urbaines. C'est-à-dire que ce sont les élites urbaines. C'est-à-dire les journalistes, les universitaires, les romanciers, en fait, habitent essentiellement dans les grandes métropoles, essentiellement à Paris. Et donc, ils vont diffuser des représentations des campagnes où sont absents ces ouvriers. Puisque donc les professions intellectuelles supérieures, elles se concentrent essentiellement dans les grandes villes. Et les représentations dominantes s'accordent bien avec les expériences de la campagne qui sont vécues par la plupart des citadins, qui sont soit touristes de passage, soit propriétaires de résidences secondaires. Et c'est le cas y compris dans les milieux universitaires, où défendre l'intérêt de travailler sur ces populations n'est pas évident, puisque il y a une concentration des universitaires dans les grandes villes et surtout dans la région parisienne. Donc il y a ces élites urbaines, et de l'autre côté, vous avez une autre élite sociale qui est assez puissante dans les rapports de force pour imposer ces représentations. C'est le cas des élites agricoles qui, elles, peuvent s'appuyer donc sur la FNSEA, sur des événements comme le Salon de l'agriculture, sur un institut comme l'Institut national de la recherche agronomique auquel j'appartiens, où la plupart des sociologues travaillent sur les agriculteurs. Donc il y a un institut qui travaille quasiment que sur les agriculteurs. Il n'y a pas d'institut pour travailler sur le monde ouvrier. Et donc là, vous avez un groupe social dans les campagnes qui est quand même assez puissant symboliquement pour faire en sorte que dans les représentations dominantes des campagnes, on va penser intérêts ruraux, intérêts agricoles, population rurale, population agricole, alors que les agriculteurs sont minoritaires depuis très longtemps. C'est qu'en gros, on estime en général que c'est depuis les années 50 qu'il y a plus d'ouvriers que d'agriculteurs dans ces campagnes. Donc ça va, voilà. Donc et je pense que cette domination symbolique, elle est aussi liée simplement aux représentations physiques, c'est-à-dire que dans n'importe quel bourg ou village, on voit les champs, on voit les céréales. En fait, les agriculteurs sont très visibles. Même si vous avez qu'un ou deux agriculteurs dans le village, vous voyez le travail agricole. Souvent, les villages, il y a beaucoup plus d'ouvriers, mais le travail ouvrier est beaucoup plus invisible. Ensuite, dans cette diffusion des représentations dominantes, je pense aussi qu'il y a l'impact du mouvement ouvrier Le mouvement ouvrier a contribué à forger une image de la classe ouvrière, et le mouvement ouvrier, notamment au sein de la CGT et du Parti communiste français, était essentiellement animé par des ouvriers urbains, des grands bassins industriels. Et donc les porte-paroles de la classe ouvrière étaient essentiellement des porte-paroles issus du monde de l'industrie urbaine et des ouvriers très qualifiés, si bien que même dans le mouvement ouvrier, il y a une invisibilisation déjà de ces populations ouvrières rurales. Et à mon sens, s'il y a un succès d'une idée comme la fin de la classe ouvrière, c'est notamment parce que nos représentations du monde ouvrier sont attachées à ces figures classiques du monde ouvrier, donc le métallo de la banlieue rouge parisienne, les figures minières aussi, donc tout un secteur qui s'est plutôt fragmenté. Et on a d'autant plus tendance à penser que la classe ouvrière disparaît qu'on se rattache à des figures classiques portées par le mouvement ouvrier. Or, donc, comme je vous l'ai dit, cette population ouvrière, elle est historiquement importante dans les campagnes. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il y a eu un renforcement ces dernières années dans le cadre de ce qu'on peut appeler une gentrification urbaine, un renforcement de la ségrégation socio-spatiale, dans le sens où il est de plus en plus difficile pour les ménages populaires de rester habités en ville, et surtout dans les centres-villes, notamment lorsqu'ils veulent accéder à la propriété. Et donc vous avez tout un processus de relégation des classes populaires dans les périphéries urbaines, et voire jusque dans les campagnes. Et donc ça renforce cette situation avec tout simplement une proportion des ouvriers qui augmente plus on s'éloigne du centre-ville, des agglomérations. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, on estime en gros, donc il faut toujours mettre Paris à part, puisque c'est une ville singulière pour sa concentration de classe supérieure, mais en gros il y aurait donc environ 15% d'ouvriers à Paris, 23% dans ce qu'on appelle les grands pôles urbains, donc ce sont les grandes métropoles, les grandes villes, 26% dans le périurbain, donc la périphérie des grandes villes, et 32% dans les espaces ruraux. Donc plus on s'éloigne des grandes agglomérations, plus la part des ouvriers dans la population active augmente. Et elle est seulement majoritaire dans ces espaces ruraux. Et à l'inverse, donc les cadres et les professions intellectuelles supérieures augmente plus on s'approche des grandes villes. Donc en gros, c'est 28% à Paris et 7% dans les espaces ruraux. Donc ça joue sur ces représentations que j'évoquais au départ, puisque ces 28% voilà, sont concentrés. Donc la part est beaucoup plus importante dans une ville comme Paris. Et en général, dans les différentes filières et secteurs industriels, vous avez une concentration des emplois qui appartiennent aux fonctions intellectuelles, de gestion ou de décision, donc en gros les sièges sociaux, la recherche et le développement dans les métropoles, tandis que les activités de fabrication industrielle se localisent de plus en plus dans les espaces ruraux ou périurbains. C'est une question de foncier, c'est une question également de coût de la main-d'œuvre. Donc il y a une séparation de plus en plus forte par rapport au type d'emploi pourvu par les différents secteurs. Une autre manière et une dernière manière de mettre l'accent donc sur le fait que ces campagnes sont très ouvrières, c'est de simplement de lister avec vous les départements français les plus ouvriers en proportion. Donc les départements français où la part des ouvriers est la plus importante dans la population. Donc généralement, on pense que ça serait donc plutôt du côté de la région parisienne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, ou du Nord, ou du Pas-de-Calais. Or, au fait, dans l'ordre, c'est Ardennes, Haute-Marne, Orne, Aisne, Mayenne, Vosges, Haute-Saône, Jura, Vendée, Meuse. Donc on est en fait essentiellement dans des départements qui sont foncièrement ruraux. Ce qui les singularise, c'est qu'il n'y a pas de grandes villes. En fait, les départements les plus ouvriers sont les départements où il n'y a pas de grandes villes. On est toujours dans la périphérie des régions, on n'est jamais dans le département central. Et en Seine-Saint-Denis, donc, le pourcentage, donc il y a plus d'ouvriers puisqu'il y a plus de population, mais le pourcentage d'ouvriers est plus bas. Et c'est important, ça veut dire qu'au quotidien, dans les interactions sociales dans ces départements ruraux, on a beaucoup plus de chances de fréquenter, de vivre, de se marier, d'aller à l'école avec des ouvriers ou des enfants d'ouvriers. Donc ça joue vraiment sur les styles de vie locaux. Donc une concentration de la population ouvrière dans ces campagnes, et surtout, quand on fait la distinction, surtout dans les petites villes des campagnes, c'est qu'en gros, on peut distinguer dans ces espaces ruraux, donc moi ce que j'appelle des bourgs, donc c'est des localités de quelques milliers d'habitants, et autour les villages. Dans ces bourgs, vous avez une concentration des services publics, des services commerciaux, des activités industrielles. Donc en gros, vous avez généralement le collège, le supermarché, quelques usines, des fois un hôpital. On est bien dans le cas de bourgs ruraux et pas dans le cas de bourgs périurbains. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bourgs où les habitants vivent pour aller travailler dans une grande agglomération, mais bien des petites villes qui sont à la fois des lieux de travail, de résidence, de loisirs, de scolarisation, et qui ont un rôle attractif pour les villages environnants. En gros, souvent, ce sont les chefs-lieux de canton. Alors que dans les communes qui peuvent être, pareil, de quelques milliers d'habitants, mais qui sont très proches des grandes agglomérations, on est vraiment sur des styles de vie très différents. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut toujours distinguer quand même le périurbain, où il peut y avoir des communes rurales, et le rural plus éloigné, où il y a ce rôle important de ces petites communes, de ces petites villes. Et c'est là où la population ouvrière est la plus importante. Donc de tous les territoires français, lorsqu'on fait des distinctions, même en reprenant les classements classiques de l'INSEE et de la DATAR, c'est dans ces petites communes, dans ces petites villes des campagnes, que la proportion d'ouvriers est la plus importante. Donc c'est dans l'un de ces bourgs que j'ai enquêté. Donc c'est une commune qui fait environ 3000 habitants en Bourgogne et qui est éloignée de 60 km d'une grande ville, d'une métropole régionale où il y a une université, donc qui est une ville assez importante. Et mon travail, ça a été surtout de suivre donc, les salariés qui travaillent dans un atelier de réparation de matériel ferroviaire, donc des cheminots sédentaires qui travaillent dans cet atelier, un atelier où il y a environ 400 salariés. Et j'ai suivi au quotidien les militants syndicaux de la CGT, donc qui est le premier syndicat à la SNCF et le premier syndicat dans cet atelier. C'est une enquête qui s'est allée sur une durée de 5 ans, entre 2007 et 2012, avec essentiellement des entretiens avec ces ouvriers, mais aussi avec les cadres de l'établissement et avec d'autres habitants de la localité, des observations du militantisme syndical et une analyse documentaire par archive, donc archive de la municipalité, de l'entreprise et du syndicat. Et ma problématique, c'est essayer de comprendre les transformations de l'engagement ouvrier, puisque comme cela a été dit dans la présentation, moi je viens après toute une série de travaux qui ont bien éclairé la question de la dévalorisation de l'identité ouvrière. Donc sur le fait qu'il y a une crise de reproduction du groupe ouvrier, qu'il est de plus en plus difficile de transmettre des valeurs militantes aux nouvelles générations ouvrières. Donc c'est notamment très très bien étudié par le travail de Michel Pielloux et de Stéphane Beau sur les usines Peugeot à Sochaux. Donc ces retours sur la condition ouvrière, donc publié à la fin des années 90, où on comprend bien la crise de reproduction du groupe ouvrier et une tension forte entre générations et l'impossibilité pour les vieux militants ouvriers de trouver des successeurs et de transmettre des valeurs de solidarité aux nouvelles générations ouvrières. Donc ça, je pense que c'est important pour comprendre les difficultés et la fragmentation aujourd'hui du monde ouvrier. En même temps, ce n'est pas suffisant, puisque ça ne permet pas de comprendre pourquoi il y a toujours la CGT comme premier syndicat aux usines Sochaux de Peugeot et pourquoi il y a toujours des militants syndicaux, parce qu'ils n'ont pas disparu. Que ce soit la SNCF, à EDF, dans l'automobile, il y a toujours des militants syndicaux, ils sont moins nombreux. Mais par la force des choses, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui militaient dans les années 70, puisque donc nous sommes dans les années 2010. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes ouvriers qui ont été embauchés dans ces entreprises, qui ont un jour rejoint le syndicat et qui ont accepté de prendre des responsabilités. Donc on est en plus dans un contexte différent. Donc il y a toujours un renouvellement. Du fait simplement qu'il existe toujours des syndicats et des militants, il y a un renouvellement. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre cette question de l'engagement ouvrier sur cet angle, sur l'angle des recompositions, et pas simplement éclairer le fait qu'il y a une crise et qu'il n'y a plus de poursuite de l'engagement ouvrier. Donc c'est essayer de comprendre pourquoi et comment des ouvriers continuent à militer, malgré la force des processus qui favorisent leur exclusion politique. Donc exclusion politique dans le sens qu'ils sont exclus de la vie locale et de la plupart des associations et des organisations, et que tout est fait pour empêcher leur mobilisation. Donc pour comprendre pourquoi ces salariés de l'atelier militent à la CGT et continuent de se mobiliser, le principal élément qui apparaît, c'est, à mon sens, le fait qu'ils appartiennent à une entreprise nationale de services publics et qu'ils bénéficient d'une continuité dans leur emploi et, en fait, donc d'une stratégie, d'une stabilité professionnelle. Le point le plus important, c'est leur stabilité professionnelle. C'est-à-dire que les autres milieux ouvriers locaux, donc là, en l'occurrence, il y a notamment une usine de la métallurgie qui est juste en face de l'atelier, avec autant de salariés. Les métallos étaient en pointe dans le mouvement ouvrier dans la région dans les années 60 et 70. Or, aujourd'hui, les métallos ne se mobilisent plus. C'est la même chose pour les autres figures ouvrières locales. Donc là, il y a aussi des femmes qui travaillent dans des ateliers de la maroquinerie. Il y a beaucoup d'employés dans les supermarchés, des femmes qui sont aides à domicile. Il y a des hommes qui travaillent dans un abattoir qui est dans la localité. En fait, ce qui singularise les cheminots, c'est qu'ils ont une stabilité professionnelle. Ils sont en CDI. Ils ont peu de possibilités de perdre leur emploi. Et c'est ce qui rend possible et pensable leur engagement, contrairement aux autres figures ouvrières locales. Donc salariés des abattoirs, ouvriers agricoles, ouvriers du bois, métallos, les conditions de travail sont telles, la fragilité est telle, notamment dans la métallurgie, c'est les 3-8, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de CDD, des intérimaires, et que même ceux qui sont CDI peuvent perdre leur emploi, qu'il y a la menace de fermeture de l'usine, toute cette fragilité fait que l'engagement syndical est très difficile. Alors que chez les cheminots, il y a le statut, une certaine stabilité de la condition ouvrière qui rend possible leur engagement syndical. Donc là, il y a une différenciation qui se fait très clairement entre ouvriers du privé et du public, si on veut, alors qu'auparavant, dans les années 70 et 60, c'était beaucoup plus faible, et on retrouvait différentes figures ouvrières dans l'union locale, où les militants pouvaient militer ensemble. Là, il y a un rétrécissement autour de ces figures les plus stabilisées. En même temps, ce que l'enquête montre, c'est que ces cheminots ne sont pas coupés des fractions les plus fragiles des classes populaires, puisque d'un point de vue statistique, on pourrait diviser en disant « il y a le privé et le public », il y a des privilégiés et des non-privilégiés. On est face à presque à deux groupes sociaux. Or, dès qu'on travaille avec eux sur leur trajectoire et sur leurs conditions de vie, sur leur parcours, on voit qu'ils sont complètement insérés dans ces milieux populaires plus fragiles. Tout simplement parce que très souvent, en fait, ils sont issus du monde du privé. C'est que très généralement, en fait, ils ont commencé à travailler à l'abattoir, très souvent dans la métallurgie. Ils n'ont pas commencé à travailler directement à la SNCF, donc ils ont connu une précarité dans leurs conditions de travail. Ils ont connu une situation où l'engagement syndical était impossible. Donc c'est intéressant de revenir avec eux en entretien sur leur parcours, parce qu'on voit très bien qu'auparavant, dans l'artisanat, dans la métallurgie, dans les services où ils étaient, il pouvait y avoir déjà des indices d'un sentiment d'appartenance de classe, mais qui prenaient des formes très différentes. Pas toujours de position au patron, mais qui prenaient des formes différentes, qui pouvaient se traduire aussi par un vote pour le Front National fort ou une abstention, alors que les mêmes individus, placés dans un contexte différent, puisqu'ils stabilisent leurs conditions ouvrières à la SNCF, ils vont rencontrer des militants ouvriers, une entreprise où la CGT est encore organisée, leur sentiment d'appartenance de classe va être politisé d'une manière très différente et ils vont s'éloigner très fortement du vote pour le Front National ou de l'abstention et s'engager autour de valeurs plus progressistes et avoir, si on veut, une politisation à gauche. Mais ce sont bien les mêmes individus, on ne peut pas juste opposer les deux groupes. Souvent, il y a un passage. Et souvent, en fait, ils sont inscrits complètement dans ces milieux populaires plus fragiles, puisque leurs femmes ou leurs époux, donc parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui travaillent à l'atelier, sont complètement inscrits dans ces milieux populaires fragiles. Beaucoup sont en couple avec des ouvriers qui sont dans la métallurgie ou des femmes qui travaillent comme aides à domicile ou dans le supermarché. Et surtout, leurs enfants, en fait, connaissent ces métiers également précaires. Donc, ils sont insérés dans ces milieux-là. Et en entretien, on voit bien que ce qui nourrit aussi leur engagement syndical, c'est aussi ce que vivent leurs conjointes ou leurs enfants. Ce n'est pas simplement leurs conditions d'ouvrier à la SNCF, mais toute l'injustice qui est ressentie via la difficulté de leurs femmes, par exemple, à accéder au marché de l'emploi, se rejoue également de leur engagement syndical. Donc c'est important de montrer que la stabilité professionnelle, c'est vraiment un ressort essentiel et que ça crée une divergence au sein des mondes populaires, mais en même temps, on n'est pas face à deux groupes qui sont très séparés, puisqu'il y a des liens très très forts. Donc c'est une stabilité qui rend possible et pensable l'engagement syndical, alors que l'instabilité dans les autres secteurs rend cela difficile. Stabilité professionnelle et également stabilité résidentielle. Donc ça, je pense que c'est important à souligner, parce que souvent, l'image que l'on a, et qui est diffusée par la littérature, parfois méprisante sur les espaces ruraux, c'est qu'on aurait des ouvriers ruraux ou du périurbain qui seraient centrés sur leur vie privée, qui accéderaient à la propriété et qui seraient cachés derrière leur haie et derrière leur compte à soi domestique, avec des comportements très individualistes, des petits propriétaires, et qui seraient coupés en cela des mobilisations collectives. Et donc souvent on dit que c'est ces petits propriétaires des pavillons qui voteraient pour le Front National et qui seraient très individualistes. Or là, moi, ce que j'observe très clairement, c'est que la plupart des animateurs du syndicat sont propriétaires de leur maison, et c'est même ceux qui les singularisent, c'est qu'au fait, ils ont accédé à la propriété, dans le bourg ou dans les villages environnants, et la stabilité résidentielle, donc ne plus être locataire, par exemple, dans les cités cheminotes, mais être propriétaire de leur maison, c'est un des éléments qui les intègre encore dans ces fractions stables, supérieures, des classes populaires qui favorisent leur engagement. Là, ça favorise plutôt le renforcement de leurs conditions ouvrières stables et donc leur engagement plus que leur désengagement. Donc ça va contre les idées que l'on diffuse souvent donc sur accession à la propriété résidentielle et repli sur soi. Là, souvent, ça crée une pause dans leur engagement puisqu'ils s'endettent sur quelques années. Il y a la construction de la maison, puisque souvent, donc, c'est des maisons qui sont à reconstruire ou à construire, c'est pas des maisons neuves. Mais ça ne les désinvestit pas de la vie publique locale. Et à l'inverse, pour construire ou faire reconstruire la maison, ils ont besoin de leurs collègues, de leur famille, du voisinage. Au fait, c'est un ancrage complet dans les réseaux locaux. Quand on est ouvrier, quand on accède à la propriété, on ne peut pas être seul. On a besoin de la belle famille, de la famille. Et en fait, c'est un ancrage local fort. Et donc, ce sont les mêmes qui s'inscrivent dans les réseaux locaux. Et les personnes les plus isolées que j'ai vues, et souvent celles qui étaient le plus dans la pauvreté et qui votaient le plus Front National, on est plutôt du côté de locataires, dans les cités cheminotes, notamment où il y a beaucoup de non-cheminots aujourd'hui, et pas du côté de ces propriétaires. Donc stabilité professionnelle, stabilité résidentielle et un élément important qui est l'ancrage local, dans le sens où aujourd'hui les militants et les animateurs du syndicat, CGT des cheminots, se singularisent par le fait qu'ils viennent de familles locales et qu'ils sont ancrés sur plusieurs générations dans la localité. Donc ça c'est important et je n'y reviens pas, mais en fait c'est pas quelque chose qui va de soi, puisque contrairement à ce qu'on pense, très souvent, les militants syndicaux viennent de familles, ne sont pas toujours issus de familles locales. D'un point de vue historique, souvent, ce sont des ouvriers célibataires qui arrivent dans une localité et qui vont s'investir dans la vie locale et associative aussi parce qu'ils sont célibataires, ils n'ont pas encore d'attache locale et ils construisent progressivement ce qu'on peut appeler leur autochtonie en étant inscrits dans les réseaux locaux. Mais le fait d'être originaire de la localité n'est pas toujours spécialement quelque chose qui est important. Dans ce syndicat, dans les années 70, 80 et 90, il y avait beaucoup d'animateurs qui venaient du Massif central, qui venaient d'un atelier ferroviaire qui a été fermé dans les années 80 et 70, qui ont été embauchés dans cet atelier-là et qui repartent après dans le Massif central à la retraite. Ils n'ont donc aucune attache locale et pourtant ils animaient le syndicat. Le principal dirigeant du syndicat au début des années 80 est quelqu'un qui vient du Massif central et qui retourne dans le Massif central. Le fait qu'il ne soit pas du coin, si on veut, n'est pas du tout un problème. Donc l'ancrage local, pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau. Et ça ne va pas de soi, et c'est nouveau, c'est qu'il y a un rétrécissement sur certaines fractions ouvrières, qui sont les fractions ouvrières les plus stables et les plus ancrées localement. Ce qui devient déterminant pour comprendre pourquoi certains continuent à s'engager, c'est surtout le fait qu'ils viennent de familles locales, plus que de familles militantes. Donc on y reviendra après, mais ce qui est important, c'est qu'ils viennent de familles locales, y compris de droite ou pas militantes, alors qu'auparavant, c'était être issu de familles ouvrières, et militantes, indépendamment de savoir si c'est des familles locales ou non. Ceux du Massif central étaient très souvent des animateurs du syndicat parce que tout simplement ils venaient de l'Allier, qui est un département rouge avec beaucoup de traditions communistes. Et en fait, ils venaient avec leur tradition militante de leur département et ils continuaient cet engagement dans un nouveau territoire. Le fait qu'ils ne soient pas du coin ne posait pas de problème. Or là, il y a un rétrécissement sur certaines familles locales. Et cet ancrage local, il est à mettre en avant puisque il y a un processus inverse du côté de leur encadrant. Donc là, on passe plutôt du côté des cadres de l'atelier. Auparavant, donc jusqu'aux années 2000, les cadres de l'atelier sont essentiellement ce qu'on peut appeler des cadres techniciens ou des cadres maison, c'est-à-dire des personnes qui ont commencé comme techniciens, voire comme ouvriers, qui sont issus de familles ouvrières. Issus de familles ouvrières locales le plus souvent et qui ont connu une promotion interne dans l'atelier, qui ont fait toute leur carrière dans l'atelier, ce qui était rare ailleurs. Là, on est dans un atelier qui est assez isolé, dans des campagnes qui sont peu demandées par les autres cadres. Donc, ils arrivaient à faire leur promotion en interne. Ils connaissaient très bien le monde ouvrier parce qu'ils étaient issus de familles ouvrières. Ils avaient commencé à travailler à l'établi. Souvent, ils étaient diplômés d'un CAP. Après, c'est le BTS. Mais ils ont commencé à travailler dans les établis avant de passer au bureau. Ils habitaient sur place. Donc, j'ai fait de nombreux entretiens, notamment avec le patron de cet atelier. Donc, il commence à le diriger dans les années 70 et 80. Donc, lui, il vient de l'extérieur, mais d'une autre ville ouvrière. Il est envoyé comme contremaître en 1953, lorsque l'atelier est mis en route. Il s'installe dans les cités cheminotes. Il se marie avec une femme qui est issue d'une famille locale. Lorsqu'il fait construire son pavillon, c'est en face des cités cheminotes, donc entre, si vous voulez, l'atelier et les cités. Donc, il est juste... vraiment au centre de cet espace. Ses deux fils travaillent à l'atelier. Aujourd'hui, un de ses fils est toujours travailleur dans cet atelier. Il a fait toute sa carrière dans cet atelier. Il a embauché des techniciens et des cadres locaux sur critères locaux. C'est parce qu'ils étaient issus de familles locales et qu'ils étaient bien insérés dans les réseaux locaux qui les ont embauchés. Ce sont devenus donc les cadres, les agents maîtrise et les cadres qui animent l'atelier dans les années 90-2000 et qui arrivent à la retraite au moment où moi j'arrive en fait sur le terrain. Donc ils habitent sur place, leurs enfants vont à l'école avec les enfants des ouvriers, surtout ils jouent dans le même club de foot, donc le club de foot a un rôle très important, donc cadres et ouvriers se retrouvent dans le club de foot, et j'évoque un peu dans l'ouvrage le fait que les conflits dans l'atelier rejaillissent dans l'espace local, notamment dans le club de foot, où certains peuvent même en venir aux mains avec les cadres dans le cadre du foot, puisqu'on n'est plus dans l'atelier, donc là normalement les hiérarchies professionnelles ne jouent plus. Et donc, ce que je montre, c'est que ces cadres sont dans des rapports de domination avec les ouvriers. C'est assez dur, mais en même temps, ils sont pris aussi dans des réseaux d'interconnaissance, ce qui fait qu'ils sont relativement contrôlés par les ouvriers, parce que leurs enfants vont à l'école avec les ouvriers, leurs femmes côtoient les femmes des ouvriers, ils vont au supermarché au même endroit, et donc il y a plein de réseaux, comme le club de foot, où ils sont en contact permanent avec ces ouvriers. Ils partagent le même espace de vie, même s'ils appartiennent à des classes, si vous voulez, différentes. Et ils partagent le même attachement à la SNCF, donc ce qu'ils disent le chemin de fer. Donc le statut, ils sont à statut, ouvriers ou cadres sont à statut, et défendent le maintien de l'emploi et de l'atelier dans ce petit bourg. Or, à partir des années 2000, vous avez une nouvelle génération de cadres qui arrivent. Donc là, ce sont des cadres managers qui sont issus des grandes écoles, des écoles de commerce. Généralement, ils ne sont pas à statut. En fait, ils sont embauchés sur contrat court, donc c'est des CDD, souvent 2-4 ans. Ils sont envoyés pour des missions, donc généralement, c'est de la restructuration. Et généralement, ils habitent dans les villes, donc soit à Paris, soit à Lyon, soit à Dijon. Ils n'habitent pas sur place et ils ne connaissent pas le travail ouvrier. Donc bien sûr, ils ne sont pas issus de familles ouvrières. Leurs enfants ne vont pas à l'école du bourg avec les ouvriers. Leurs femmes ne font pas les courses au supermarché. Ils n'habitent pas sur place. Donc il y a tout un espace de vie qui n'est plus partagé. Et moi, ce que j'observe très clairement, c'est un renforcement des clivages de classe dans la période contemporaine. Donc on pourrait penser l'inverse, qu'il y aurait un brouillage des clivages de classe et qu'on passerait à des choses où ça serait plus flou, les barrières entre exécution d'un côté et encadrement de l'autre. Ce que je vois clairement, moi, c'est que c'est beaucoup plus prononcé. Ça ne veut pas dire qu'avant, ce n'était pas dur, il y avait des conflits très durs, mais il y avait des interactions et des passages possibles. Donc, clivage de classe plus fort, puisqu'il y a aussi un clivage géographique qui s'est renforcé entre ceux qui sont en ville et qui dirigent et ces ouvriers locaux. Ça se renforce dans l'atelier, puisque comme on ne partage plus le même espace de vie, les rapports sont beaucoup plus froids dans l'atelier. Donc il y a des recommandations liées au management et tout ça, mais ça se fait aussi au quotidien. Il y a une dépersonnalisation. Donc avant, il y avait une domination forte, mais qui était une domination personnalisée sur les ouvriers. Là, on est sur une domination qui est plutôt dépersonnalisée. Et ces renforcements de classe, moi, je l'observe simplement par le fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de cadre à la CGT, alors qu'auparavant, c'était extrêmement classique d'avoir des cadres à la CGT. Donc très souvent, c'était des ouvriers qualifiés qui avaient commencé donc, sur des postes qui étaient ouvriers à CAP, qui avaient une promotion interne, et en fin de carrière, en fait, ils devenaient cadres. Et très souvent, en fait, ils restaient à la CGT. Donc ils quittaient la direction du syndicat. Donc très souvent, c'était ces ouvriers qualifiés et techniciens qui dirigeaient le syndicat. Quand ils se passent cadres, ils arrêtent de diriger le syndicat, mais ils restent à la CGT. Or, les derniers cadres, c'est impossible. Donc, moi, j'ai fait quelques entretiens avec certains qui sont restés quelques mois à la CGT dans les années 90, mais très vite, c'est impossible, puisque dans le cadre de leur travail, ils sont obligés d'avoir, donc d'appliquer des méthodes de management qui les mettent en porte-à-faux avec leurs anciens collègues du syndicat. Ça fait qu'on ne leur propose plus la carte ou ils ne reprennent plus la carte. Et pour les nouveaux, la question ne se pose pas. Donc, ils n'adhèrent pas à la CGT. S'ils adhèrent à un syndicat, ils adhèrent à l'UNSA, qui est la poursuite du syndicat cadre de la SNCF. Mais donc ça, c'est aussi un indice, c'est qu'il y a de moins en moins de cadres qui sont issus de l'exécution et il n'y a plus de cadres qui sont à la CGT. Donc il y a un engagement syndical qui se fait dans un contexte plus difficile, donc avec des restructurations permanentes, comme dans le privé. En fait, on est assez proche de ce qu'on observe dans le privé ou ce qu'on observait à la Poste notamment, et donc face à des cadres managers que l'on connaît moins, et surtout des cadres managers qui connaissent moins le travail. Donc ce qui ressort le plus directement dans tous les entretiens, c'est qu'en fait, ces cadres ne connaissent pas ce qui est fait à l'établi, ne connaissent pas le travail, et il y a une dévalorisation de la qualité. En fait, maintenant, ce qui est valorisé, ce qu'ils disent à chaque fois, c'est la qualité sur le papier. Donc il faut bien remplir les papiers sur la qualité, mais en réalité, la qualité devient secondaire, et il n'y a plus de polyvalence. Avant, en fait, il y avait une polyvalence assez importante, et les cadres, notamment, pouvaient faire du travail ouvrier. Donc c'était très courant. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les anciens cadres maison. Et ces cadres maison mettaient souvent le bleu de travail, notamment pour travailler sur les infrastructures. C'est-à-dire, comme c'était d'anciens ouvriers et des cadres manuels qui ont eux-mêmes construit leur maison, en fait, ils ont des capacités, des compétences manuelles très fortes. Et par exemple, ils ont refait dans les années 90 toute la salle des conférences, donc avec le carrelage, la peinture. Ils ont de vraies compétences et ils travaillaient avec les ouvriers pour refaire la salle de conférence. Aujourd'hui, ils n'ont plus les compétences. Aujourd'hui, c'est interdit parce qu'il y a des règlements qui font qu'on ne peut pas avoir cette polyvalence-là et on ne peut pas changer de poste. Alors que jusque dans les années 90, moi, ce que j'observe, c'est un gros décalage entre les fiches de poste dans les archives. Moi, je vois que tel cheminot est normalement sur ce poste. En réalité, en fait, il fait autre chose. Mais pour des questions d'écriture, pour de sous-rémunération aussi, beaucoup étaient restés sur le profil ouvrier qualifié un tel, alors qu'en fait, il était technicien sur un autre poste. Et il y avait une polyvalence très, très, très forte. Et il tournait assez souvent. En fonction des conflits dans les salles, certains passaient et étaient formés sur le tas pour faire autre chose. Beaucoup d'ajusteurs sont devenus électro-techniciens, donc il y a eu des changements très forts qu'on ne retrouve pas. Donc si on travaille que sur les archives, on ne le voit pas, puisqu'au fait, dans le quotidien, il y avait beaucoup plus de polyvalence, ce qui est impossible aujourd'hui, et ce qui est interdit pour des règles de sécurité. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'avant, donc, il y avait le système de la perruque que vous devez connaître, donc, qui est le fait que les travailleurs souvent utilisent leur temps de travail pour fabriquer leur propre matériel et utiliser des outils. Donc en gros, c'est utiliser le temps de travail à des motifs personnels. Et donc moi, ce que j'ai un peu vu sur ce terrain, c'est que ce travail, donc là, c'était en l'occurrence faire des décodeurs Canal+, donc fin des années 80, début des années 90, donc avec du matériel audiovisuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que les ouvriers qui le font, c'est qu'ils ont besoin des cadres pour le faire. Parce qu'ils ont besoin des cadres pour commander des pièces dont ils ont besoin. Si bien qu'en fait, les cadres, ils sont pris dans ces jeux. Puisqu'en fait, ils ont participé à ce détournement de matériel. Donc il y a plein de petites histoires qui font que les cadres sont mouillés aussi dans la perruque qui est faite par les ouvriers. Donc il y avait plein de petits arrangements qui faisaient qu'il y avait des interactions fortes et que... ils ne pouvaient pas simplement se comporter selon leur statut officiel. Or, aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est qu'ils ont un statut sur le papier à avoir, avec un management qui est imposé. Et donc, ça crée des relations beaucoup plus froides. Et une dernière fois, je suis retourné sur le terrain. Donc là, il ne reste plus qu'un agent de maîtrise à la CGT. C'est le dernier, donc, qui est non-ouvrier, qui reste... C'est un jeune qui a un BTS, qui a adhéré à la CGT parce que... Il est issu d'une famille locale, donc moi je pense que voilà, c'est une des raisons essentielles qui fait qu'il connaît déjà ce monde-là, et donc c'est pour ça que lui voit un intérêt à s'engager quand même dans le syndicat. Et donc il est coaché par ce qu'on appelle donc maintenant des dirigeants de proximité. Donc là, c'est une dirigeante de proximité qui habite en ville et qui lui reproche de tutoyer les ouvriers dans le cadre de son travail. Donc lui, il est agent de maîtrise, donc il doit encadrer une petite équipe. Et donc je lui dis, mais je connais leurs parents puisque je vis dans le bourg. Il dit, oui, mais là on est au travail, donc au travail on vous voit ses collègues, ce que vous faites dans la localité, ça ne me regarde pas. Donc on est voilà, sur une application de méthode de management dans l'atelier qui est de plus en plus perméable aux relations sociales locales, alors qu'avant c'était tout mélangé. Et il y avait une ouverture sur la localité. Par exemple, les ouvriers de l'atelier ont participé à la réfection du terrain de foot, au travail dans la mairie. C'est des choses qui sont impossibles aujourd'hui. Donc là, on est plus sur l'application du règlement et donc sur la création de barrières fortes selon la hiérarchie professionnelle. Donc évolution du profil des cadres, mais il y a aussi également une évolution du profil des syndicalistes qui s'est modifiée. Puisqu'il y a une grande évolution dans le sens où auparavant, ceux qui militaient à la CGT, ceux qui adhéraient au syndicat, très souvent, donc ils adhéraient après l'embauche, donc très très vite, après la sortie du centre d'apprentissage, après l'embauche. Donc c'est clair dans les entretiens, ils ont adhéré en fonction de valeurs qu'ils ont héritées généralement dans leur famille. Donc ce qu'ils mettent en avant, c'est une tradition familiale, le fait qu'ils connaissaient au fait la CGT des valeurs syndicales par leur socialisation familiale. Ils ne découvrent pas la CGT en étant embauchés. Donc souvent, ils sont embauchés parce qu'ils sont déjà enfants de cheminots. Ils connaissent la CGT par leur famille ou par la présence du syndicat dans la localité. C'est relativement automatique et c'est donc très, très tôt, donc ils ont environ une vingtaine d'années, ils adhèrent au syndicat. Alors que dans la période récente, à partir surtout des années 2000, on voit que l'adhésion est beaucoup plus tardive. En gros, c'est une dizaine d'années après avoir été embauché. Donc ce n'est pas automatique. Et ce qui est mis en avant dans les entretiens, ce n'est pas des questions de valeurs familiales, mais des questions de tensions sur le travail. C'est vraiment ce qui se passe dans le cadre du travail, notamment les tensions avec la hiérarchie, qui expliquent le fait qu'on va se rapprocher au bout d'un moment du syndicat, souvent pour avoir de l'aide juridique ou avoir une camaraderie, un soutien lorsqu'il y a un conflit avec un chef. Et ce sont des motifs essentiellement professionnels que l'on adhère au syndicat, alors qu'auparavant, c'était assez secondaire. On adhérait avant d'avoir des problèmes, en gros. Donc il faut attendre en gros 10 ans. Et je pense que les 10 ans, c'est aussi le temps qu'il faut pour que les illusions de la méritocratie se dissipent. Parce que ce qui est mis en avant par les nouveaux cadres managers, c'est le fait qu'on peut s'en sortir individuellement. Puisqu'il y a de plus en plus donc, une rémunération individuelle au mérite, ce sont des primes, un salaire qui est individualisé. Donc en gros, ces ouvriers qui sont embauchés, ils sont en compétition avec leurs collègues dans leur salle pour avoir plus de rendement et donc avoir une meilleure paye. Au bout d'un moment, au bout de 10 ans, on se rend compte que c'est assez vain et qu'on gagne peu, il y a peu d'élus dans ce type de compétition et que les stratégies collectives sont peut-être plus intéressantes. Donc à mon sens, c'est aussi pour ça qu'il faut attendre 10 ans. Les 10 ans, c'est sûrement aussi parce que la répression antisyndicale est beaucoup plus forte, puisqu'il y a une discrimination syndicale qui est forte. Et au bout d'un moment, voilà, on sait qu'on n'a plus grand-chose à perdre, puisqu'au bout de 10 ans, on sait si oui ou non, en fait, on a été un peu sélectionné par les chefs. Et donc, voilà, la peur de la répression antisyndicale se dissipe. Mais souvent, ce qui est mis en avant, donc, c'est la question de défendre une dignité professionnelle, qui est mise à mal par la politique de management, et c'est pour ça qu'on se rapproche de la CGT. Donc moi, essentiellement, les individus que je vais suivre, c'est au moment où ils vont adhérer à la CGT. Donc moi, je suis plutôt présent au local syndical, dans les réunions syndicales. Donc je vais un peu dans l'atelier, mais assez peu, parce que je n'ai pas voulu demander d'autorisation pour ne pas faire un tour de l'atelier avec les cadres et puis être trop affiché de ce côté. Donc moi, ce que je vois, c'est au moment où ils adhèrent, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils vont se transformer progressivement, devenir des militants, puisque comme ce que je l'avais montré dans mes travaux sur le Parti communiste, c'est qu'on ne naît pas communiste, en fait, on devient communiste progressivement, et qu'il y a une socialisation qui se fait ou qui ne se fait pas. Certains ne restent pas, sont mis de côté. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est la transformation des cheminots qui deviennent syndicalistes et comment, en fait, ils deviennent progressivement des porte-parole d'un collectif, alors que souvent, en fait, ils viennent plutôt sur des motifs individuels. Tout le travail, c'est de généraliser leur engagement. En fait, donc, il va y avoir ce qu'on peut appeler une politisation, c'est qu'ils viennent sur des motifs individuels, souvent pour une aide juridique, sur des conflits personnels et des conflits liés à leur salle. Donc c'est un atelier avec différentes salles. Tout le travail qui est fait par les animateurs du syndicat, c'est de transformer les motifs individuels de l'engagement des cheminots en raison collective de se mobiliser. autour de questions de solidarité, autour solidarité dans la salle, entre les différentes salles, solidarité autour des travailleurs du rail, en disant, tout est construit dans la boîte pour opposer ceux qui sont dans l'atelier, d'abord dans les salles, puisqu'il y a des compétitions pour les primes de rendement. Après, il y a une division très forte de la politique de l'entreprise pour diviser ceux qui sont dans l'atelier, ceux qui travaillent sur les voies, ceux qui travaillent dans les guichets. Or, le syndicat, en fait, il regroupe tous les cheminots du site. Donc vous avez dans le syndicat un esprit cheminot qui est poursuivi. Alors que la boîte divise les cheminots en catégories qui ne peuvent plus trop se fréquenter. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans les gares, vous avez des salles pour ceux qui sont agents de guichet. Ceux qui travaillent sur les quais en d'autres salles, ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Or, le syndicat, c'est un des rares lieux où vous avez les différents métiers cheminots qui se retrouvent. Donc il y a la poursuite d'une certaine solidarité cheminote. Et donc tout un travail de généralisation de l'engagement en disant qu'on n'est pas là que pour défendre la salle ou l'atelier, mais ce qui est mis en jeu, c'est la politique ferroviaire en général, la politique de la boîte et la question des ateliers du ferroviaire en France. Donc il y a tout un travail de généralisation et de politisation l'engagement. Donc les cheminots apprennent progressivement à parler au nom d'un collectif. Donc ça, on le voit très clairement lorsqu'au départ, en fait, ils viennent et ils disent « je ». Donc ils disent « j'ai dit à la réunion, j'ai ». Donc au bout d'un moment, ils vont dire « nous ». Ils vont apprendre à parler au nom du collectif et apprendre à défendre des valeurs collectives et à dépersonnaliser l'engagement. Donc c'est dépersonnaliser en parlant plus d'eux et de leur inimité personnelle par rapport à un collègue ou à un chef, mais aussi dépersonnaliser les attaques. Et puis attaquer le patron ou les cadres en tant que personne, mais en tant que ce qu'ils représentent, et en tant que c'est le statut qu'ils ont, et tout est fait pour qu'ils fassent ça. Donc ça amène aussi à une certaine pacification, dans le sens où on ne va pas avoir une animosité qui est personnelle et des invectives personnelles contre les chefs, mais on va mettre les chefs en porte-à-faux par rapport à leur politique, par rapport aux recommandations. Donc il y a tout un travail de monter en généralité et de dépassement donc des raisons initiales de l'engagement. Donc moi je suis dans le cadre de la réunion donc du syndicat, donc où je vois différents métiers cheminots. Je vois aussi parce que c'est un lieu où se rencontrent des catégories qui ne se fréquentent plus sur le lieu de travail. Donc ça c'est vraiment très important pour comprendre pourquoi cette dignité professionnelle et cet esprit cheminot peut encore se poursuivre dans le cadre du syndicat. Et vous avez également des rencontres fortes entre générations, puisque dans ces secteurs encore structurés syndicalement, donc comme EDF et la SNCF, vous avez des retraités qui sont présents. Donc vous avez toujours un ou deux représentants des retraités qui participent aux réunions et qui ont un rôle très important. Et là, en l'occurrence, donc, quand je suis sur le terrain, c'est un retraité qui est un ancien de la CFDT. Donc il faut savoir qu'à la CGT cheminote, vous avez beaucoup d'anciens de la CFDT qui sont venus par vagues lorsqu'ils étaient en conflit avec leur fédération qui prenait des positions trop modérées. Donc dans les années 90, dans les années 2000, vous avez différentes vagues de militants qui viennent et qui intègrent la CGT. C'est bien qu'à la CGT, vous avez différents types de militants. Et donc là, c'est un retraité qui a milité à la CFDT dans les années 70 sur des motifs plutôt liés à l'autogestion. Il était plutôt gauchiste, anti-stalinien. Et il vient avec une politisation forte qui vient de ces années 68. Et il a un rôle de passeur essentiel auprès des jeunes adhérents. C'est-à-dire qu'il va avoir un rôle de politisation et des relations très fortes, notamment avec le jeune cheminot qui s'occupe de la section jeune de la CGT, autour de la question de l'engagement syndical, qui est un engagement au-delà des revendications salariales. Donc autour de la lutte contre le sexisme, le racisme, l'homophobie. Et donc on voit que toutes ces valeurs politiques des années 68 s'engageaient au travail, au-delà des motifs strictement liés au travail, qui étaient assez peu présentes dans les années 80, en fait, elles sont transmises par ce retraité, et pas par le secrétaire du syndicat, qui, lui, a une politisation plutôt des années 80, où on est plutôt sur des motifs professionnels. Lui, il va moins mettre en avant la question de la lutte contre le racisme ou le sexisme, alors que ce vieux militant cheminot qui vient de ces années 68 pour sa politisation, de la CFDT, de l'autogestion, il va avoir un rôle très important, et permettre la politisation et les envies d'engagement de ces jeunes cheminots. Donc ça, c'est aussi ce que permet le syndicat, cet échange entre générations. Autre rencontre, autre singularité dans ces et Réunion. Donc, pour moi, c'est un point très important, même si ça peut paraître peut-être anecdotique, c'est que ce syndicat, ce qui se joue dans ce syndicat, c'est l'absence de reproduction de hiérarchie scolaire. Dans le sens où la hiérarchie scolaire, en gros, les plus diplômés ne dominent pas dans le syndicat. Donc pour moi, c'est exceptionnel, puisque dans l'ensemble de la vie sociale, c'est l'inverse. Donc puisqu'il faut savoir que ce sont ceux qui ont le plus de capital scolaire qui dominent toutes les instances. Donc bien sûr, dans l'entreprise, où ce sont ces cadres managers qui sont les plus diplômés qui dominent. On le verra à la fin de ma présentation, c'est les plus diplômés qui dirigent la municipalité. Il faut savoir que dans cette municipalité, c'est l'habitant le plus diplômé de la commune qui dirige la municipalité. Donc c'est très très souvent le cas. Dans les associations, c'est la même chose. C'est les classes moyennes intellectuelles qui dirigent les associations. Lorsque vous avez des ouvriers, ils sont là que pour des tâches subalternes. Généralement, ils ne sont pas dirigeants des associations. Les partis politiques, c'est la même chose. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Parti communiste, mais c'est pareil pour tous les partis. Donc, surtout pour les partis de gauche, mais c'est partout pareil. Ce sont les plus diplômés qui dirigent les partis politiques. Même les partis les plus radicaux à l'extrême gauche sont animés par des gens qui sont surdiplômés. Et automatiquement, vous avez une reproduction des rapports de domination dans les organisations. Les plus diplômés dirigent. Donc c'est naturel, et c'est parce qu'il y a de la délégation par rapport aux plus diplômés, parce que les plus diplômés, ce sont les plus compétents et ont une autorité qu'ils se donnent pour diriger ces associations. Or là, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, c'est exceptionnel. Donc il faut savoir qu'en France, dans les associations, c'est la même chose. Parce que souvent, on dit que l'engagement, le bénévolat, c'est une ouverture. Il faut savoir que les associations sont essentiellement animées par des classes moyennes. Les classes populaires sont très minoritaires, et surtout dans le bureau des associations. Et à mon sens, le syndicat, c'est le dernier lieu qui reste où il n'y a pas toujours cette reproduction des rapports de domination scolaire. C'est souvent le cas, et surtout aux échelons nationaux. Plus on monte dans la hiérarchie syndicale, plus on voit cette reproduction. Mais dans ces syndicats de site, ce n'est pas toujours le cas. Et donc pour moi, c'est assez exceptionnel, et c'est assez exceptionnel notamment par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier. Parce qu'il faut savoir que le mouvement ouvrier CGT, mais surtout donc, le mouvement ouvrier lié au Parti communiste, on est face à des ouvriers très atypiques. Les ouvriers communistes, les porte-parole de la classe ouvrière, donc ceux qui devenaient députés ouvriers, dirigeants des municipalités ouvrières, les dirigeants du Parti communiste français, étaient certes ouvriers, mais en fait c'était des ouvriers très qualifiés, souvent techniciens, et des ouvriers très atypiques, c'est-à-dire des ouvriers diplômés, donc en gros des ouvriers à CAP dans les années 50 et 60, alors que la plupart des ouvriers n'ont pas le diplôme du CAP. Ce sont des ouvriers surdiplômés, très atypiques, qui dirigent le Parti communiste français, atypiques par leur diplôme et surtout par leur processus scolaire. Parce que souvent, ce sont des ouvriers qui ont été très bons scolairement, qui ont un très bon souvenir de l'école, notamment des cours de français, et qui ont une certaine frustration scolaire. C'est qu'ils auraient voulu poursuivre leur scolarité, qui était très bonne. Donc souvent, ils arrivent premiers sur le canton au certificat d'études primaires. Mais du fait de leur famille modeste, du fait d'accidents liés à la guerre ou des accidents biographiques, ils ne peuvent pas continuer leurs études. Et ils ont une frustration scolaire très forte qu'ils vont réinvestir dans l'engagement syndical. Donc très souvent, vous avez des aspirations culturelles qui ont été forgées à l'école, le contact avec le prof de français, très souvent, et qui sont réinvestis dans l'engagement syndical, ils vont poursuivre des aspirations scolaires, si on veut, dans l'engagement syndical, qui appelle des techniques liées à l'écrit, à l'écriture, des compétences culturelles qu'ils avaient déjà commencé à acquérir dans le cadre de leur scolarité. Donc c'est pour ça que ce sont des ouvriers atypiques. Or là, par rapport à ces animateurs du syndicat, je ne retrouve vraiment pas ça. C'est-à-dire que ce sont des ouvriers ACAP. Donc dans les années 90, 2000 et 2010, ces ouvriers ACAP, c'est des ouvriers classiques. Là, on n'est plus sur des surdiplômés, puisque maintenant, les surdiplômés, si on veut, aujourd'hui, ce sont les ouvriers bacheliers, qui sont nombreux, mais toujours encore minoritaires. Mais très, voilà. Donc l'élite ouvrière, scolairement, chez les ouvriers, c'est les ouvriers bacheliers. Notamment les bacs pro. Or là, vous avez de plus en plus de bacs pro dans cet atelier et à la SNCF. Or, ce ne sont pas eux qui dirigent le syndicat. Je vous ai dit qu'il y avait un agent de maîtrise qui est diplômé du BTS, il ne dirige pas le syndicat. Quand j'arrive sur le terrain, c'est un ouvrier à CAP qui dirige le syndicat. En plus, quand j'arrive sur le terrain, il reste encore quelques cadres. Et aussi des cadres qui sont dans d'autres secteurs qui ne sont pas à l'atelier, mais qui travaillent ailleurs. Donc celui qui dirige le syndicat, c'est un ouvrier CAP qui anime la réunion, qui organise la réunion. Il a face à lui des agents de maîtrise et des cadres. La plupart sont ouvriers, mais vous avez quelques professions supérieures. Or, c'est lui qui dirige. Et celui qui lui succède en 2008, c'est également un ouvrier CAP, Donc nouvelle génération et pourtant toujours ouvrier à CAP, alors qu'il y a de plus en plus d'ouvriers bacheliers. Donc ça, c'est important puisqu'il n'y a pas la reproduction de cette domination scolaire au sein du syndicat. Ce n'est pas les plus dominants scolairement qui dominent. C'est-à-dire qu'on y reviendra à la fin, mais l'organisation est en mesure de fournir des ressources collectives par la formation, par tout un apprentissage, donc c'est ce que je vous ai dit sur apprendre à être le porte-parole d'un collectif, qui permet d'oser s'affirmer et de ne pas être toujours dans la délégation. Eux, ils ne défendent pas spécialement que ce soit un ouvrier à CAP qui dirige, mais en fait, c'est assez naturel, parce que par définition, il est plus proche de la base ouvrière, de la majorité, et l'organisation lui fournit des ressources pour être en capacité d'organiser une réunion. Et ce que j'observe, c'est que les aspirations scolaires, en fait, elles sont créées par le syndicat. Elles ne préexistent pas à l'engagement syndical. Donc pour moi, c'est une nouveauté par rapport à l'engagement ouvrier classique, du moins communiste que j'ai étudié par ailleurs. C'est que généralement, ils n'ont pas une bonne image de leur scolarité. Ça a été très difficile. Ils ont un mauvais souvenir de l'école, surtout du collège général. Quand on est sur des matières techniques, ça va mieux. Mais pas de bon rapport avec les profs de français, une difficulté dans les matières littéraires et aucun goût scolaire pour l'écrit et l'écriture. Par contre, progressivement, l'engagement syndical les oblige à faire ce travail, et ils ont un apprentissage et un capital culturel qui est construit par le syndicat. Donc là, ce n'est pas un capital culturel qui est construit par l'enseignement, réinvesti dans le syndicat, mais c'est le syndicat qui va montrer l'intérêt qu'il y a à apprendre à bien lire et à bien écrire. Ce qu'on me dit souvent, le syndicaliste, donc qui est mon principal informateur, qui dirige le syndicat quand j'arrive sur place, c'est que c'est la CGT qui m'a appris à lire et à écrire. Donc il savait un peu lire et écrire avant, mais très peu, et ça ne l'intéressait pas. Par contre, après, il voit tout l'intérêt qu'il a à maîtriser ça dans les réunions avec la boîte, pour les rapports de force, et surtout, donc, il devient le formateur sur toute la région des syndicalistes, cheminots et non-syndicalistes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous avez un ouvrier à CAP qui a une scolarité plutôt compliquée. Donc lui, il a passé le CAP en 3 ans. Il a eu du mal, et pourtant, c'est lui qui va faire de la formation. Et donc ça, c'est une singularité aussi du mouvement ouvrier français et de la CGT, c'est qu'on ne va pas faire appel à un enseignant, alors qu'il y a beaucoup d'enseignants, on ne va pas faire appel à un intellectuel de profession pour enseigner, faire la formation, mais un intellectuel d'organisation, si on veut, c'est-à-dire un militant ouvrier qui est formé par l'organisation, qui va acquérir des compétences scolaires et qui va faire la formation. Et quand il forme, il va former des enseignants, des techniciens, des agents de maîtrise. Donc généralement, c'est plutôt ouvrier et employé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une scolarité courte, qui est ouvrier, qui va faire de la formation. Parce que l'organisation compense, en quelque sorte, le capital scolaire qu'il n'a pas eu. Et donc l'aspiration scolaire, elle est plutôt produite par l'engagement, et elle lui préexiste pas. Donc après, moi j'ai du mal à voir si c'est une nouveauté, parce que peut-être que c'est aussi que là on est dans le cas d'un engagement syndical, et donc c'est pas un engagement politique. L'engagement ouvrier que moi je connais plus au Parti communiste, c'est un engagement qui est déjà plus politique, c'est pas n'importe quel ouvrier, on est déjà sur une généralisation plus forte, c'est déjà une fraction spécifique du monde ouvrier. C'est les ouvriers de la CGT qui poursuivent leur engagement en étant au Parti communiste français. Donc ils sont peut-être aussi singuliers. Ensuite, moi, je travaille sur un syndicat de base, sur un échelon local, sur un petit syndicat de site, si on veut. Et généralement, les travaux sur le monde ouvrier portent sur les dirigeants. On va travailler sur les dirigeants des confédérations, sur les porte-paroles, sur les grandes villes. Et donc, vers probablement des militants qui, eux, ont un profil plutôt classique. On va trouver plutôt chez les dirigeants des profils scolaires avec des ouvriers qui ont une bonne scolarité, ou même qui sont allés à la fac, donc ça moi je le retrouve dans d'autres terrains, et qui sont à la fac en emploi ouvrier et qui sont déçus et qui vont contrebalancer leur déception à être ouvrier en s'engageant dans le syndicat. Or là on est dans un petit syndicat rural qui est éloigné des grandes universités, donc leur trajectoire croise moins l'université. Donc peut-être que c'est aussi parce qu'on ne travaille généralement pas sur ce type de syndicat. On ne travaille généralement pas sur les militants de base ou sur les syndicats locaux, et que ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais comme moi je travaille sur des syndicats plutôt locaux et moins sur des dirigeants, on tombe sur ce profil-là. Mais après, je pense qu'il y a quand même une question de génération, puisque ces militants ouvriers dans ce bourg ne militent plus au Parti communiste français, contrairement aux générations précédentes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas poursuivre leur engagement syndical par un engagement politique. Ils n'ont plus l'ouverture culturelle qu'il y avait avant. Souvent, les ouvriers de la CGT, dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, SNCF allait aussi aux réunions des cellules du Parti communiste, avait un apprentissage d'une culture générale, au-delà de la culture militante. Il fréquentait des enseignants dans le cadre du Parti communiste français. Il s'intéressait à la littérature classique, donc il y a énormément de choses sur Victor Hugo, sur la littérature classique, qui étaient apportées par l'engagement politique. Or là, on est dans un engagement qui est strictement syndical. Il lise essentiellement la production militante produite par leur syndicat, de la SNCF. Au fait, ils lisent que les tracts de la fédération SNCF, les revendications propres au milieu ferroviaire. Il n'y en a plus que deux qui lisent l'Humanité, dont le retraité, et ils lisent même pas beaucoup la presse de la Confédération. Donc je pense qu'il y a quand même un rétrécissement du militantisme syndical autour de l'entreprise, autour de la corporation, si on veut, et moins d'élargissement culturel. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rétrécissement sur les familles locales et sur des ouvriers qui sont pas sûrs diplômés. Ils se sont en quelque sorte spécialisés. Dans l'ouvrage, je parle d'intellectuels d'institution, donc pour ceux qui deviennent permanents, puisque je montre donc ce sont des ouvriers qui quittent leur travail ouvrier, puisqu'ils deviennent permanents. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fin de carrière, ils deviennent permanents, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus travailler tous les jours à l'atelier. Ils deviennent intellectuels, dans le sens où ils font un travail lié à l'écrit, à la lecture. Ils font un travail qui est plus proche des cadres de l'atelier que de leurs collègues ouvriers. Je montre qu'ils échappent au travail ouvrier, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'ils échappent vraiment à la condition ouvrière, parce qu'au fait, ils deviennent permanents en fin de carrière. Donc je vous ai dit 10 ans avant d'adhérer au syndicat. Après, ils ont 10 ans de mandat, de petit mandat. Et donc, c'est qu'au bout de 20 ans qu'ils deviennent permanents, généralement à 100%. Donc ils ont autour de 40 ans. Et donc, on ne peut pas dire que... Donc ça, c'est pour casser l'image des syndicalistes bureaucrates qui seraient hors sol et qui auraient des stratégies intéressées pour échapper au travail. En fait, c'est très progressif, c'est pas anticipé. En adhérant au syndicat, ils n'imaginent pas un jour devenir permanent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment un permanent. Ils n'ont plutôt pas envie d'avoir des responsabilités. Ce que je montre, c'est que généralement, ils ne veulent pas avoir de responsabilités, que c'est progressivement, ils sont pris dans la responsabilité. Il y a de moins en moins de monde pour avoir des responsabilités. Donc, en fait, ils sont progressivement, ils ont tellement de mandats qu'ils arrêtent de travailler. Mais comme ils habitent toujours sur place, donc je montre que leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants sont toujours dans le monde ouvrier, ils habitent toujours dans le bourg, ils deviennent permanents en fin de carrière. Donc on ne peut pas parler de personnes qui seraient bureaucrates, isolées dans un entre-soi qui leur serait propre. En fait, ils sont complètement insérés dans le milieu ouvrier qu'ils représentent. Et surtout, comme on est dans des contextes ruraux d'interconnaissance forte, ils sont complètement pris dans les relations et le contrôle de leurs collègues. C'est-à-dire que quand mon principal informateur rentre de ses réunions à Dijon ou à Paris, il rentre par la gare, il passe devant l'atelier où il y a ses collègues et il va au site Cheminote où il habite toujours. Il y a sa sœur qui travaille au guichet et son frère qui travaille sur les voies. Dans les réunions de famille, il est dans ces réseaux-là. En fait, on ne peut pas dire qu'il s'est extrait de la condition ouvrière. Il ne peut pas développer une sociabilité bourgeoise ou petite bourgeoise à part puisqu'il n'y a pas de lieu déjà dans la localité. Il n'y a que deux cafés et les réseaux de sociabilité sont des réseaux profondément populaires. Donc ce n'est pas parce qu'il est devenu permanent qu'il a quitté ce monde-là. Et c'est pour ça que je montre qu'il y a vraiment une différence entre les permanents syndicalistes issus d'entreprises et les permanents politiques, notamment ceux que j'ai étudiés pour le Parti communiste français, où là, vous avez des permanents qui deviennent permanents dès qu'ils sortent de l'université. Donc en gros, ils sont permanents quand ils ont une vingtaine d'années. Ils sont recrutés parce qu'ils sont diplômés en sciences politiques ou en communication. Ils sont embauchés par des collectivités territoriales. Souvent, ils sont attachés parlementaires, collaborateurs d'élus. En fait, ils ont quitté le monde professionnel dès le début. C'est le même mot, c'est des permanents. Mais d'un côté, vous avez des permanents syndicalistes qui, par la force des choses, ont toujours un lien très fort avec le travail. De l'autre côté, vous avez des permanents politiques qui ont un rapport aux classes populaires qui est beaucoup plus fragile. Je vais terminer en conclusion donc, pour revenir sur la question de la poursuite de l'engagement syndical dans l'espace local. Donc pour revenir sur cette question du rapport aux politiques. Donc sur comment l'engagement syndical donne des ressources à ces cheminots pour contrebalancer leur domination politique et contrebalancer, donc, ce que j'ai évoqué, contrebalancer leur exclusion politique. Donc, puisque, comme vous le savez, donc, il y a une marginalisation politique très forte des classes populaires, donc une exclusion politique des ouvriers qui a toujours été forte, mais qui est beaucoup plus forte dans la dernière période, dans le sens où, bien que les ouvriers donc, composent encore toujours, donc, en gros, un quart de la population active et elle est majoritaire dans ce type de commune, donc très largement majoritaire, ces ouvriers sont marginalisés dans les instances de pouvoir. Donc dans les bureaux des associations, chez les responsables des organisations, dans les municipalités. Donc vous avez plus aujourd'hui quasiment plus de députés ouvriers. Les principaux maires sont pas issus de ces milieux-là. Au Sénat, c'est la même chose. Au fait, vous avez une petite élite sociale qui accapare tous les postes politiques. Ça a toujours été très fort, mais c'est encore plus fort aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a eu un déclin très fort du Parti communiste qui avait au moins l'avantage de propulser des ouvriers dans ces instances. Or là, donc, vous avez une marginalisation politique très, très forte. La plupart des dirigeants politiques et des élus politiques sont issus des classes supérieures ou des classes moyennes intellectuelles, et y compris dans ce type de territoire. Donc dans ces campagnes françaises qui sont des campagnes extrêmement ouvrières, on pourrait penser que là, au moins, il pourrait y avoir un pouvoir local un peu plus proche du monde ouvrier. Or, c'est la même chose. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que la municipalité, à beau être une municipalité d'union de la gauche, vous avez les élites sociales qui sont aussi les élites municipales. Donc c'est très très classique. Donc il y a une domination scolaire, professionnelle, donc les cadres par rapport aux ouvriers, et aussi une domination politique. Vous allez avoir les cadres, ceux qui restent en tout cas dans la localité, qui vont être élus à la mairie, et les ouvriers locaux qui vont être marginalisés. Donc en gros, ce sont les moins représentatifs de la population qui sont les représentants politiques. Donc il y a vraiment un enjeu de démocratie fort, puisque c'est une toute petite élite qui se retrouve à représenter des collectivités qui sont pourtant très ouvrières. Or, le syndicat est, donc à mon sens, le dernier groupe qui permet de contrebalancer cela, puisqu'il va apporter aux ouvriers des ressources, des armes pour pouvoir s'engager et pour pouvoir résister à ces processus de marginalisation et de délégation. Puisque dans le syndicat, il y a un apprentissage pour savoir s'opposer, ne pas être dans la délégation, savoir s'affirmer, apprendre à tenir tête au chef de l'atelier, au contremaître. Ça donne des ressorts aussi pour contrer une honte sociale générale et donc pouvoir arriver à parler ou à tenir tête au directeur de l'école, au notaire local ou au maire de commune. Donc ça permet d'avoir des interactions avec des classes supérieures qui soient des interactions assez équilibrées et pas que dans la soumission. Et donc ça donne des ressources collectives, puisque c'est l'organisation qui donne les ressources collectives à des individus pour compenser leurs faiblesses en ressources individuelles. En face, donc le notaire, donc les professions libérales, les gros commerçants, les gros agriculteurs, les enseignants, les cadres ont des ressources individuelles liées à leur scolarité, leur profession. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une organisation pour se présenter aux élections ou pour faire de la politique, puisqu'ils ont déjà une confiance en soi, des ressources, donc capital scolaire, une autorité professionnelle, individuelle, pour pouvoir se sentir autorisé à faire de la politique, à diriger une association, à faire des choses dans la vie locale. Du côté ouvrier, il y a besoin effectivement d'avoir des réseaux, des organisations. Donc, ce que faisait le Parti communiste avant, ce que faisaient aussi les réseaux catholiques ouvriers, qui avaient un rôle très très important dans ces communes, et ce que font donc les syndicats, ressources collectives qui permettent de compenser la faiblesse en capital scolaire et la faiblesse des positions professionnelles. Et donc, je le vois de manière que j'évoque dans l'ouvrage. Donc, c'est notamment le cas, donc j'en ai évoqué que deux, donc qui paraît peut-être anecdotique, mais qui me semble assez important. C'est le cas d'un ouvrier cheminot qui devient président de son comité de parents d'élèves. Donc, c'est un comité de la FCPE. Donc, pour moi, c'est important parce que souvent, dans ces comités de parents d'élèves, en fait, vous avez des enseignants et des cadres qui les animent. Et quand vous avez des ouvriers, ils sont là que pour les tâches matérielles, donc pour organiser la kermesse, c'est pas eux qui vont être présidents ou diriger. Or là, ce que montre bien l'entretien avec ce cheminot, c'est que c'est toute la confiance en soi qu'il a acquise dans les réunions du syndicat qui lui permet d'avoir l'envie de s'insérer dans ce comité et ensuite progressivement de ne pas être dans un rôle subalterne, mais de s'engager et de devenir progressivement président. Face à des enseignants et des cadres, ce qui n'est pas si évident. Donc lui, il est un peu particulier parce qu'il a fait une seconde générale, mais qui s'est mal passée, qu'il est revenu, mais voilà, donc il est pas diplômé. Et donc c'est un ouvrier qui va se retrouver président de son comité de parents d'élèves. Donc c'est intéressant par ça, puisque ça va contre la domination sociale de ces catégories. Et surtout, il va politiser à gauche ce comité, puisque on n'est pas une amicale de pêcheurs à la ligne qui est dans le syndicat, en fait, il va le refaire dans le comité de parents d'élèves. C'est qu'il va dire, si on est un comité de la FCPE, ce n'est pas juste pour organiser la kermesse, la fête de l'école, c'est aussi pour avoir des revendications sur le nombre d'enfants par classe, Et il va politiser le comité, et notamment, il va y avoir tout une campagne avec des pétitions. Ils vont mettre en porte-à-faux la députée de la circonscription par rapport à son vote à l'Assemblée nationale. Donc tout le travail qu'il a fait pour le syndicat sur la politique ferroviaire, sur la généralisation de son engagement, en fait, il fait la même chose dans le comité de parents d'élèves. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrier, donc représentatif de la population, qui anime le comité, et en plus, il le politise et il va avoir des revendications progressistes liées à son engagement syndical, en sachant qu'il n'est pas engagé politiquement ailleurs, c'est vraiment des valeurs qui lui viennent de son engagement syndical. Et l'autre cas, donc, c'est le cas de la municipalité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une municipalité d'union de la gauche, avec en gros donc l'habitant le plus diplômé de la commune qui est maire de cette commune. Donc c'est quelqu'un, donc ce maire, c'est une municipalité du Parti radical de gauche, donc le maire est du Parti radical de gauche. Il a fait Sciences Po Grenoble et après le Collège européen de Bruges en Belgique, donc il forme les hauts fonctionnaires européens. Donc lui, c'est le cas classique des permanents, donc surdiplômés, donc recrutés par le Parti radical de gauche pour être attaché parlementaire à un député. Donc surdiplômé qui se retrouve maire de la commune. C'est le plus diplômé de toute cette commune très ouvrière qui est maire de la commune. Et probablement, s'il n'était pas maire, il ne resterait pas dans la commune. Ce qui le fait rester, c'est qu'il est maire d'une commune qui est assez importante puisque c'est la commune qui rayonne sur le canton. Donc il était élu cantonal et responsable de l'intercommunalité également et candidat aux législatives. Sa position politique fait que, malgré son appartenance à ces classes supérieures, il reste quand même localement, alors qu'en général, ce sont plutôt des classes moyennes ou de la petite bourgeoisie ou qui restent localement. Il est maire et il s'entoure comme adjoint essentiellement donc des élites sociales locales. Donc ce sont essentiellement les cadres des entreprises locales, donc les cadres qui restent sur place. Donc souvent maintenant, ce sont plutôt des cadres moyens, puisque comme on l'a vu, les cadres supérieurs sont plutôt des gens qui n'habitent pas sur place. Mais en gros, les cadres moyens de l'atelier sont adjoints. Donc en général, ce sont des cadres de l'atelier qui sont plutôt proches du syndicat UNSA, qui est le syndicat donc cadre de la SNCF, qui sont proches du Parti radical de gauche ou du Parti socialiste. Vous avez des cadres d'autres entreprises ou des commerçants. Donc en gros, ce sont des élites sociales qui se retrouvent dans la municipalité comme adjoints. Vous avez seulement un adjoint d'origine ouvrière, qui est tout simplement l'ancien secrétaire du syndicat CGT des cheminots. Donc c'est quelqu'un qui est simplement diplômé du certificat d'études primaires, et c'est tout. Donc il n'a aucun autre diplôme, il n'a même pas le CAP. Il est marié avec une femme qui était ouvrière dans l'usine textile de la commune qui a fermé, donc qui est aujourd'hui femme de ménage. Donc c'est une intrusion d'un ouvrier qui est bien représentatif de la population et qui se retrouve seul adjoint d'origine ouvrière dans cette municipalité. Et c'est clairement le syndicat qui lui donne des ressources pour avoir l'envie, l'intérêt de monter une liste au municipal. Donc c'est en 95, une liste d'ouvriers de la CGT. En fait, souvent, c'est comme ça. C'est l'étiquette communiste qui est mise en avant, mais en fait, c'est les militants ouvriers de la CGT qui montent une liste et qui se présentent aux élections municipales. Et c'est bien construit dans le cadre du syndicat. Donc là, le syndicat donne des ressources, l'envie, l'intérêt, en disant pour mener à bien mes revendications, peut-être que s'inscrire aussi dans la vie locale, c'est fait également pour moi. Donc il y a tout un travail contre la honte sociale ou le sentiment de délégation qui est fait en interne. Donc vous avez quelqu'un qui va avoir des interactions. Donc il est ami et très proche de ce maire du Parti radical de gauche, même s'il est ouvrier à CAP. Donc ça permet des rencontres sociales qui sont improbables, parce qu'il y a eu une construction de la possibilité d'interaction des classes supérieures dans le cadre du syndicat. Donc c'est intéressant parce que vous avez un adjoint d'origine ouvrière, donc il y a un enjeu de démocratie, de représentativité, et c'est aussi intéressant parce que c'est le seul adjoint proche du Parti communiste français. Donc il y en avait deux. Donc il y avait aujourd'hui, donc il y a une enseignante proche du Parti communiste et cet adjoint d'origine ouvrière. Et donc le syndicat, il permet non seulement donc à des ouvriers de faire de la politique et de s'engager au niveau municipal, mais en plus, il permet une politisation à gauche, puisque donc c'est pas un hasard si c'est celui qui est le plus ouvrier qui va défendre des valeurs les plus à gauche, puisque par son quotidien, sa femme, ses enfants, ce qu'il a vécu au travail, il a un intérêt beaucoup plus important et une sensibilité beaucoup plus forte à ces questions pour développer ses valeurs de gauche progressiste, alors que les autres cadres qui sont à l'UNSA, ils n'ont pas la même histoire de vie. ils n'ont pas les mêmes revendications, et donc c'est lié foncièrement aussi à leur trajectoire. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en lien les trajectoires biographiques et sociales avec les représentations et les valeurs politiques. Donc ce n'est pas deux choses qui sont autonomes, et c'est pour ça que l'identité sociale du porte-parole, elle est importante. On ne défend pas les mêmes choses en fonction de sa trajectoire. Donc avoir des dirigeants ouvriers, des militants ouvriers, c'est important pour le type de valeurs qui sont diffusées. Et là, vous voyez que vous avez des clivages qui sont à la fois des clivages syndicaux, cadre UNSA, des clivages UNSA CGT, des clivages sociaux, donc cadre UNSA ouvrier CGT, des clivages politiques, puisque donc vous avez Parti radical de gauche PS d'un côté et PC de l'autre, et qui sont aussi des clivages municipaux, sauf qu'ils se présentent sur la même liste. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être présent sur place et de faire vraiment des enquêtes sur le terrain, parce que comme ils sont sur la même liste, on pourrait penser qu'en fait c'est une liste unie de gens très proches qui sont de gauche. En réalité, c'est très conflictuel et c'est des arrangements. Vous avez des conflits très très forts entre ces cadres et ces ouvriers. En même temps, ils sont sur la même liste parce qu'en face, vous avez une liste qui est plutôt à droite, profession libérale, agriculteurs, commerçants. Donc c'est des alliances. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont proches, même s'ils sont sur la même liste. Ils sont juste plus proches. Leur opposition aux élites de droite les rassemble. Mais on est sur des clivages très très forts. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours creuser ce qu'il y a derrière ces élections municipales et de ne pas être que sur les côtés unanimistes que l'on voit derrière ces listes. Et pour terminer, dire juste que cet adjoint d'origine ouvrière, en fait, il n'est plus au Parti communiste français, comme la plupart de ces militants cheminots. Donc ceux qui étaient adhérents ont arrêté d'être adhérents, et les nouveaux qui ont adhéré dans les années 2000 à la CGT ne rejoignent plus le Parti communiste français, puisqu'en fait, vous avez un clivage de plus en plus fort qui s'est fait entre les deux organisations héritières du mouvement ouvrier. Et ces militants ouvriers, en fait, se reconnaissent plus trop dans la culture organisationnelle du Parti communiste français, puisque tout ce que je vous ai dit sur la socialisation collective, sur être porte-parole d'un collectif, c'est de moins en moins mis en œuvre au sein du Parti communiste français, où là, vous allez avoir des politiques à géométrie variable en fonction du lieu où l'on milite au Parti communiste. Vous n'avez pas la même ligne qui est défendue. Par exemple, dans cette région, il y a des alliances qui sont faites avec le MoDem au niveau des élections municipales dans la grande ville. Dans d'autres départements, vous allez avoir des alliances plutôt avec le Parti de gauche, avec le Front de gauche. Au fait, vous avez des lignes politiques qui divergent et vous allez avoir une valorisation des individualités et des gens très diplômés qui vont pouvoir défendre des lignes en fonction de leur intérêt personnel ou de leurs compétences personnelles. Donc vous avez toute une culture organisationnelle qui était collective, donc autour du centralisme démocratique, donc ce qu'on appelle de l'extérieur aussi le caractère stalinien du Parti communiste français, qui avait des côtés très négatifs sur la démocratie, mais qui avait des côtés positifs sur les ressources collectives qui étaient données aux militants et qui permettaient de contrebalancer cette domination scolaire et des individus que j'ai évoqués. Or là, c'est plus le cas dans un parti comme le Parti communiste français. Ça fait que ces militants ouvriers ont du mal à militer au sein du Parti communiste français, où maintenant vous avez essentiellement que des enseignants et des cadres, donc plutôt une élite diplômée, de moins en moins d'ouvriers. Et donc de moins en moins d'ouvriers, pas parce qu'il n'y a plus d'ouvriers, et non plus pas parce qu'il n'y a plus de militants ouvriers, puisqu'il y a toujours des militants ouvriers dans les syndicats, mais parce que cette filière de la matrice, la filière syndicale, elle irrigue de moins en moins les partis de gauche. Donc c'est pour terminer sur le clivage entre la gauche et les classes populaires, à mon sens. Une des principales clés de compréhension de cette différenciation, c'est le fait que la filière syndicale, la matrice syndicale, est de plus en plus dévalorisée. Avant, le passage par le syndicat était très valorisé. On allait valoriser des militants syndicaux qu'on allait présenter aux législatives, aux élections municipales, parce qu'ils étaient militants dans la principale entreprise. On valorisait les militants issus du monde du travail, comme on disait. Aujourd'hui, c'est plutôt secondaire. On va plutôt valoriser ceux qui ont des compétences, donc plutôt ceux qui sont issus de l'université, ceux qui ont des compétences dans la gestion des collectivités territoriales, et l'identité sociale des militants devient secondaire. On ne fait plus trop attention à leurs origines. Le principal, c'est de représenter la population dans sa diversité et d'être compétent. Le fait de ne plus faire attention aux origines sociales fait que vous allez retrouver les classes moyennes et supérieures qui vont automatiquement prendre les responsabilités, puisqu'il n'y a plus ce travail de valorisation et de formation des militants. Et on peut voir cette différenciation, donc je terminerai sur ça, si on compare tout simplement la fonction publique territoriale. Donc il faut savoir que la fonction publique territoriale, elle a un rôle très important pour la CGT et le Parti communiste français, mais pas dans le même sens. Au fait, à la CGT, les militants de la CGT viennent essentiellement des catégories C, donc en gros c'est 80% de la fonction publique territoriale, donc c'est les ouvriers et les employés de la fonction publique territoriale. Or, du côté du Parti communiste français, c'est les cadres A. Et donc, vous avez une différenciation très très forte, qui est une différenciation sociale, une différenciation syndicale. Et dernièrement, donc, il y a eu différentes grèves, notamment en banlieue parisienne, où vous pouvez avoir donc, des grèves d'ouvriers de la CGT qui sont en grève contre le maire communiste, qui est plutôt proche des cadres de la fonction publique territoriale, parce qu'ils sont aussi engagés dans les fédérations du communiste et dans le parti. Donc vous avez une divergence qui est à la fois sociale et politique, et qui joue sur les manières de s'organiser. Et donc que l'on retrouve également au niveau territorial, puisque la CGT est encore organisée dans ses bourgs, puisque ce sont des bourgs très ouvriers, le Parti communiste, comme les autres partis, ont quasiment disparu. Aujourd'hui, les partis sont surtout structurés dans les métropoles, dans les grandes villes, et ils ont quasiment déserté ces territoires. Voilà, donc j'ai conscience que j'ai beaucoup parlé, et très vite, mais j'espère que c'était assez clair. Merci pour votre attention.